Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir de retrouver le président Henri Malos. Président, bonjour.
Bonjour.
Président Henri Malos, président du groupe des employeurs au Comité économique et social européen, et ceci pour deux événements. Premier événement, nous allons y revenir longuement, c'est celui de sa nouvelle parution chez l'Harmattan, La construction européenne, histoire et avenir d'une Europe des peuples, avec Laure Limousin dans la collection Questions contemporaines. Le titre résume en quelque sorte d'ailleurs la conviction de l'auteur, à savoir que l'avenir de l'Europe passe par les peuples et d'abord par les peuples. Alors, un second événement, et non le moindre, qui est sa nomination en tant que nouveau président du Comité économique et social européen. Henri Malos, vous étiez donc le président du groupe des employeurs. Les employeurs viennent de vous désigner comme leur représentant et vous prendrez vos fonctions quelque part au mois d'avril prochain en tant que président de cette troisième institution européenne. Je voulais vous adresser toutes nos félicitations et vous dire combien nos couleurs, j'en suis convaincu, seront bien représentées dans ces institutions européennes. En tout cas, bravo pour ça.
Merci.
Alors, nous allons revenir, bien sûr, sur votre ouvrage. Peut-être avant, un mot de votre nomination, un rappel pour nos auditeurs de ce que représente le Comité économique et social européen, et puis peut-être vos principaux axes d'action, en tout cas tels que vous pouvez les imaginer aujourd'hui, même si c'est un petit peu prématuré.
Oui, non, c'est tout à fait d'actualité. Alors, le Comité économique et social européen est une institution qui a été voulue par Jean Monnet. Dès que Jean Monnet était un chef d'entreprise, famille de propriétaires d'une marque de cognac, et il avait compris, lui, parce qu'après certains ont oublié, que c'est de la société civile, des acteurs économiques et sociaux, notamment des chefs d'entreprise, mais d'autres aussi, que pouvaient venir les idées les plus raisonnables pour construire cette Europe dont je continue à penser qu'on en a vraiment, vraiment besoin. Et donc, il a institué, un peu sous le modèle français, en 1958, le Comité économique et social européen. Il avait d'ailleurs institué un comité à peu près du même genre lorsqu'il a institué la CECA en 1951, pour que les acteurs économiques et sociaux, donc patrons, syndicalistes et autres organisations de la société civile, milieux associatifs, soient associés très directement aux affaires européennes. Et il avait donné à ce comité les mêmes pouvoirs à l'époque que l'Assemblée consultative parlementaire. C'est pour dire vraiment son idée d'une démocratie sur deux pieds, participative avec les acteurs économiques et sociaux, représentative avec le Parlement. Et le Comité économique et social donne des avis consultatifs sur tous les textes européens. Et donc, effectivement, nous avons un système qui fonctionne de manière, je dirais, avec une bonne concertation. Nous avons trois groupes, donc le groupe patronal, le groupe des employeurs que je préside, 115 membres qui viennent des 27 pays, qui représentent tous les milieux patronaux, grandes, PME, tout type d'entreprises de toute l'Europe. Il y a un groupe de même taille qui représente les syndicalistes, donc les employés, et un groupe de même taille, tout le monde de la société civile. Et la présidence est assurée par rotation entre les groupes. Donc le président actuel est un agriculteur suédois, le prochain président est issu du groupe que je préside, le groupe des employeurs. Et donc, ce groupe m'a fait l'honneur, mercredi dernier, à une large majorité. Bon, j'avais un concurrent, mais voilà, la vie, c'est la compétition.
Donc, c'est de haute lutte.
Oui, je peux dire oui. Mais je serai donc, à partir du mois d'avril, le 30e président du Comité économique et social européen, le 5e français à occuper cette fonction, le premier issu du monde des chambres de commerce, puisque c'est ma raison d'être. Et vous me demandez ce que je souhaite y faire. Je veux dire qu'aujourd'hui, un des grands défis, c'est pas le plus grand défi. Pour moi, c'est peut-être le plus grand défi de la construction européenne. C'est le fait que les citoyens adhèrent de moins en moins au projet. Ils sont toujours pour une Europe, mais de moins en moins pour l'Europe telle qu'on leur vend, telle qu'on la construit. Une Europe qui est perçue aujourd'hui comme bureaucratique, comme ne prenant pas en compte les intérêts des citoyens. Et la seule institution dans laquelle il y a ces citoyens qui sont représentés au travers justement des forces vives, patrons, syndicalistes, salariés, autres parties de la société civile, le comité économique et social, plus de 1000 fonctionnaires, donc 600 traducteurs, un budget de 130 millions d'euros, des bâtiments superbes, et malgré tout, pas très efficace, parce qu'on s'en perd sur des sujets de détail. Je me souviens, quand j'étais passé, on s'était rencontré, Jean-Luc Chambon, je vous avais parlé de la taille des cornichons.
Tout à fait.
Et effectivement, c'est toujours comme ça, on passe toujours du temps à ça, on se concentre pas sur l'essentiel. Et moi, je voudrais d'abord qu'on anticipe davantage, c'est-à-dire qu'on soit les premiers, au nom de l'intérêt général européen, à alerter. Par exemple, regardez ce qui se passe dans l'automobile aujourd'hui. C'est évident qu'il faut une stratégie européenne de l'automobile. Une stratégie purement française n'a aucun sens. Regardez le succès qu'on a connu et qu'on connaît avec Airbus. Ça, ce qu'il fallait faire, ce qu'il faudrait faire avec l'automobile. Et ça, c'est à nous à lancer ce genre d'idées. Faire aussi l'évaluation, c'est-à-dire évaluer ce que sont les politiques européennes, comment ça fonctionne sur le terrain pour dénoncer ce qui ne va pas et avoir une logique de projet. Aujourd'hui, le comité économique et social ne produit que des papiers. Moi, je voudrais qu'il produise des idées qui portent, qu'il montre l'exemple, qu'il ait des actions concrètes, parce qu'aujourd'hui, on peut pas faire vivre une institution de 130 millions d'euros avec juste des avis. Il faut donner plus de concret, plus de crédibilité.
Très bien. Alors, on voit déjà que vous êtes dans l'action et que cette définition de priorité de ces axes d'action, on les retrouve aussi dans votre parution, ce qui me permet de faire une transition très facile, puisque, en fait, vous faites un diagnostic et vous transmettez vos convictions au personnel dans cet nouvel ouvrage. Alors, on va maintenant, je pense, y revenir beaucoup plus longuement et vous affirmez d'entrée que l'Europe, l'Union européenne a déjà 50 ans, mais cette construction est loin d'être achevée, dites-vous, tout en soulignant que ce qu'elle a accompli déjà est extrêmement important, mais sans pourtant avoir permis de donner une véritable identité européenne. Et ce que vous dites en synthèse, et vous allez y revenir, c'est que cette identité ne pourra venir que de la volonté des peuples, de la société civile. Alors, quels sont les axes, les choix qui s'offrent à cette Union européenne, alors qu'aujourd'hui, on le voit bien, de nombreuses questions se posent sur son avenir?
Tout à fait. Vous savez, aujourd'hui, en fait, il y a deux crises. Il y a la crise en Europe et il y a la crise de l'Europe. La crise en Europe, le monde entier a été victime de la crise, l'éclatement de la bulle financière, les subprimes, etc. Mais la crise, elle est pratiquement passée. Elle subsiste en Europe. Parce que la crise en Europe, comme dans le reste du monde, s'est ajoutée la crise de l'Europe. Car quand d'autres pays développés, frappés par la crise, ont su réagir, l'Europe qui est mal gouvernée, qui est pas dirigée, parce qu'on n'a pas pris les mesures nécessaires pour, un, avoir des politiques claires, deux, avoir un système de gouvernance décisif, l'Europe est incapable de réagir face à une crise. Et s'il y a une prochaine crise dans 10 ans, ce sera encore pire. Plus l'Europe s'élargit, plus le système devient ubuesque, plus on a des réunions de chefs d'État et de gouvernement qui sont, il faut le dire, un spectacle, et après, on n'a rien qui se met en œuvre. Donc effectivement, il y a une véritable crise de l'Europe. Et cette crise de l'Europe, elle tient autant à ce système de gouvernance dont je viens de parler, qu'à une absence aussi de vision économique de l'avenir de l'Europe. Et en fait, on a mis un marché unique, on a aboli les frontières, on a mis une monnaie unique pour la plupart des pays, mais on n'a pas de vision commune de l'économie. Chacun de nos pays essaie de tirer les marrons du feu pour lui-même, de son côté, avec des politiques souvent totalement divergentes. Et c'est ça ce que j'estime être quelque chose à l'encontre de l'intérêt général de l'Europe. Et cet intérêt général de l'Europe, il doit s'exprimer. Et moi, j'estime, c'est le pari de ce livre, avec un rappel historique, que toujours l'intérêt général de l'Europe, il s'est exprimé par les forces vives, par les forces économiques et sociales. Ce sont elles qui ont amené la construction de l'Europe, Congrès de l'AE 1948. Ce sont elles qui ont, par exemple, lancé les politiques communes, telles que la politique agricole commune. La politique agricole commune, elle a été voulue par les agriculteurs d'abord. Ce sont les entrepreneurs qui ont voulu le marché unique dans les années 80. Et Jacques Delors en a repris l'idée et l'a transformée de manière brillamment, avec le programme 1992. Et aujourd'hui donc, ce sont les entrepreneurs, les organisations de la société civile qui doivent dire à nos gouvernements, halte, arrêtez, je dirais, de perdre votre temps, arrêtez de jouer, on joue plus. La situation de l'Union européenne est catastrophique. Le chômage explose, notamment le chômage des jeunes. Il y a des pans entiers de notre économie qui disparaissent, de notre industrie qui disparaissent, et on le voit tous les jours. Il faut réagir et avoir une véritable vision de notre avenir économique. Et je pense que nul autre que les acteurs de la société civile ne peuvent apporter cette vision.
Alors, on vous connaît maintenant comme président du CESE, donc du Comité économique et social européen. On connaît aussi l'enseignant que vous êtes et l'auteur qui a déjà fait paraître un certain nombre d'ouvrages. Vous enseignez dans plusieurs universités européennes, Strasbourg, Paris, Moscou, Wrocław, qui est en Pologne, j'imagine. Oui. Donc, vous êtes au contact aussi des jeunes. Donc, est-ce que dans vos contacts avec ces jeunes européens que vous retrouvez dans les différentes universités où vous voyagez et où vous enseignez, est-ce que vous sentez qu'il y a un sentiment de l'Europe qui est prégnant ou qui ne change pas par rapport à l'ensemble de la société civile ?
D'abord, je dois dire que vous avez remarqué, vous l'avez dit d'ailleurs, ce livre, je l'ai coécrit avec Laure Limousin, qui est une jeune femme, qui a donc cette sensibilité, qui fait de brillantes études de sciences politiques, qui a été attachée parlementaire, qui a été membre d'un cabinet ministériel dans le précédent gouvernement, qui a été aussi l'assistante du président de l'Assemblée des chambres de commerce et d'industrie. C'est le lien que j'ai noué avec elle. Mais j'ai aussi, bien sûr, beaucoup de rencontres avec des jeunes. Je parle aussi beaucoup avec mon fils. Mon fils a 25 ans.
Oui.
D'ailleurs, j'ai dédié la postface de cet ouvrage, lui ai dédié. Et je dois dire que les jeunes, et j'ai participé encore hier à Bruxelles à une conférence sur le thème de jeunesse et emploi. Il y avait deux jeunes, dont un français venant de la Seine-Saint-Denis. Et je crois qu'ils ont tous à peu près la même vision. C'est-à-dire qu'ils ont dans l'âme européen, pour la plupart d'entre eux, ils aiment voyager, ils veulent l'abolition des frontières, ils sont contre les contrôles, ils se sentent français, italiens et autres, et européens. Mais en même temps, il y a une espèce de découragement. Ils sentent que on ne leur donne pas les chances pour eux de se développer. Ils ont l'impression d'être dans une société bloquée. Mon fils m'a dit plusieurs fois, c'est papa, je vois pas moi d'avenir pour moi en France. Il a fait des études dignes, il a un bon bagage, il parle plusieurs langues. Bon, maintenant il est en Pologne, qui est un pays qui a un peu plus dynamique, qui a un taux de croissance, comme vous savez, un des plus élevés de l'Union européenne. Mais il m'a dit un jour, peut-être il faudra que j'aille sur un autre continent, parce que on a l'impression qu'on ne donne pas de chance aux jeunes, on ne donne pas de perspective. Hier, le jeune du 93, comme on dit, qui participait au débat, me parlait de la faculté de Villetaneuse en me disant que ils ont, dans le cadre d'une association très pro-européenne, un syndicat d'étudiants pro-européens, ils ont cherché à soutenir, à développer l'esprit d'entreprise. C'est très bien. Et ils ont demandé aux jeunes en master, est-ce que vous avez des projets d'entreprise? Est-ce que vous avez des idées? Et il m'a dit, on a été surpris parce que sur une centaine d'étudiants, il y en a au moins 40 qui sont arrivés en disant, oui, j'ai un projet. J'aimerais bien monter une boîte. J'aimerais bien créer quelque chose. Mais il y a personne pour m'aider. Les parents n'ont pas de moyens ou peu de moyens, étudiants boursiers pour la plupart. Quand on va voir les banques, on se fait, pour la plupart des cas, fermer la porte au nez. On n'est pas pris au sérieux. On n'est pas pris au sérieux. Jean-Louis Chambon, je veux dire quelque chose, je ne sais pas si je l'avais dit la fois dernière, mais quand j'ai décidé de présenter ma candidature à la présidence du Comité économique et social européen, il y a un haut fonctionnaire européen qui m'a dit un jour, « Mon avis, tu es encore trop jeune. Tu sais quel âge j'ai ? Vous savez quel âge j'ai ? J'ai 57 ans. » Donc à 57 ans, vous considérez trop jeune pour occuper des fonctions. Donc je pense
donc
c'est ça
qu'il faut remettre en
absolument.
Cause. Tout à fait,
oui. Absolument.
Alors venons-en maintenant à un diagnostic partagé, sentiment un petit peu d'absence d'identité. Je dois préciser à nos auditeurs que votre ouvrage est écrit donc à quatre mains, si je comprends bien, est servi par un style de grande qualité et très agréable, extrêmement aéré. J'en cite un passage. L'Union européenne ne peut se contenter d'être cette masse d'incertitudes ou cette Europe magma que, pour reprendre l'expression de Christian Saint-Étienne, alors que d'autres pays sont sur de véritables politiques de structuration pour accélérer leur développement. Alors, quelles sont ces pistes que vous imaginez que l'Europe devrait prendre à partir du poste d'observateur très engagé que vous êtes? Où aller? Comment faire?
Alors, prenons une perspective historique, si vous permettez. Je pense que c'est toujours intéressant de montrer la perspective historique. J'essaie d'être pas trop long. Il y a eu une progression de la construction européenne jusque dans les années 90, qui s'est fondée sur la méthode voulue par Jean Monnet, la méthode communautaire. Une idée toute simple. Mais pourquoi nous nous mettons ensemble, entre nous, pays européens? C'est parce que quand on se réunit, on est plus fort. Ça paraît évident. Donc, bâtissons des politiques communes. Au lieu d'avoir une agriculture allemande, italienne, néerlandaise, on a une agriculture commune. Même chose pour la pêche. On a fait le marché unique dans les années 80, donc on a supprimé les frontières. Donc, on avait tous les éléments pour poursuivre. Mais à un moment, on s'est arrêté. Parce qu'il y a eu l'élargissement. À mon avis, il fallait continuer. On n'a pas voulu aller plus loin. Le seul vrai élément commun qu'on a mis en place, c'est la monnaie unique, l'euro. Mais d'abord, pas pour tous les pays. Et ensuite, vous en connaissez toutes les imperfections, parce qu'avoir une monnaie unique, mais sans politique économique, fiscale, budgétaire commune, on voit bien quelles sont les difficultés aujourd'hui. Et on s'est arrêté en chemin. Et je crois que ça a été d'abord une faute politique et ensuite une faute stratégique économique. Alors, la faute politique, c'est que au lieu de continuer sur le chemin de Jean Monnet, c'est-à-dire de continuer à bâtir des politiques communes, on aurait pu, c'est ce pourquoi je plaide, on aurait pu, en continuant, c'est ce que d'ailleurs Jacques Delors avait souhaité, il avait fait un livre blanc au début des années 90, qu'il avait souhaité une politique commune de la recherche, une politique commune de l'innovation, une politique commune, véritablement commune des transports. Il avait souhaité aussi à l'époque des projets de grandes infrastructures de transport soutenus par des partenariats publics-privés. Au lieu de se lancer sur cette voie, elle a été bloquée, elle n'a rien donné. On l'a remplacée par ce que moi j'appelle une farce, m'excuse d'être un peu brutal, qui a été la stratégie de Lisbonne. C'est-à-dire on a remplacé des politiques concrètes de mise en commun. Pour être plus fort, on met en commun nos ressources, c'est ça l'idée, et on lance des actions concrètes ensemble. On a remplacé ça par une vague stratégie, faut le dire très fumeuse, stratégie de Lisbonne, avec cette idée folle, à mon avis folle, de dire on va bâtir une Union européenne qui va être la plus compétitive du monde sur l'économie de la connaissance. L'économie de la connaissance, c'est quoi? Et c'est surtout, ça a incité surtout certains pays, pas l'Allemagne qui a compris, mais d'autres, à tourner le dos aux activités de production.
Et industrielle.
Et à considérer, industrielle ou même de service, et à considérer que, bon, il suffisait, je dirais, de faire des conférences et de faire de la littérature, au mauvais sens du terme, pour pouvoir faire tourner une économie. Et une économie, c'est l'économie réelle. Ça a besoin de petites et moyennes entreprises, d'entreprises qui produisent des biens et des services, qui les vendent, qui les exportent, qui échangent. C'est ça, une économie. Et si on tourne le dos à cela, avec une vision, je dirais, abstraite, académique, abstraite, sur la vie économique réelle, on arrive à vider de sa substance le projet européen et l'économie européenne.
Donc l'axe que vous défendez, c'est redonner sa place à la société civile pour relancer le projet politique de l'Union européenne. Et vous dites au passage que l'Europe apparaît plus que jamais comme un objet politique non identifié, ce qui résume un petit peu le constat que vous venez de développer. Les 520 millions de citoyens et de citoyennes de l'Union européenne sont désemparés face à des institutions compliquées dont le fonctionnement leur semble totalement opaque. C'est un petit peu l'ensemble de votre constat. Alors, ce livre, c'est d'abord un livre de conviction. De conviction dans les jeunes, vous l'avez dit tout à l'heure. Il n'y aura pas de génération perdue, dites-vous. C'est ce que vous dites entendre auprès de vos jeunes élèves un peu partout dans le monde. J'entends plutôt « jamais nous n'avons été aussi proches les uns des autres, jamais nous n'avons autant échangé nos cultures, nos envies et nos inquiétudes, et ce grâce notamment aux nouvelles technologies, jamais nous n'avons eu autant conscience de notre capacité à peser sur notre avenir. Donc l'Europe de demain qui sera celle des jeunes et celle de la société civile. »
Oui, et l'idée de la génération perdue vient de mon fils.
Eh bien, parce que, c'est un bel hommage que vous rendez à votre fils. Hein.
Oui, tout à fait. Mais il a eu cette expression parce qu'il, je pense que c'était d'ailleurs déjà utilisé. Vous savez, quand vous avez une tranche d'âge qui, dans certains pays, regardez l'Espagne, plus de 60% de cette tranche d'âge ne trouve pas d'emploi. Obligé la plupart du temps de continuer à vivre chez papa, maman, sans salaire réel ou sans, en dehors de petites bourses. Quand vous voyez beaucoup de jeunes qui décident d'émigrer, le jeune que j'ai rencontré hier disait, un autre d'ailleurs, disait, moi j'ai vu 3 ou 4 jeunes qui ont créé des entreprises au cours des années passées, ben ils sont tous partis aux États-Unis. Pourquoi? Parce que ils ont trouvé un environnement aux États-Unis favorable au dynamisme et à la jeunesse qu'on ne trouve pas en Europe. Alors, vous me direz, quel est le lien avec les institutions européennes? Moi, je pense que on est dans un système tellement lourd, tellement pesant, qui n'est plus adapté à la mentalité et au dynamisme des jeunes générations qui, avec effectivement les nouveaux moyens de communication, eux, ils vivent dans l'instant, ils vivent dans la rapidité. Et nous, on a un monde européen, institutions, programmes européens, politiques européennes, qui sont, au niveau national, c'est la même chose, mais le cadre européen l'amplifie, qui sont tellement lourds, tellement lents, tellement pesants, que les jeunes gens se sentent mal à l'aise là-dedans, ils se sentent mal aimés, mal reçus. Ils sentent aussi d'ailleurs que à eux, on va leur demander de payer toutes nos erreurs.
Les additions.
Les additions, ce sont eux qui vont payer les additions. J'ai rencontré hier un groupe de jeunes qui veut lancer une initiative citoyenne. Vous savez que l'Union européenne a la possibilité maintenant de donner la possibilité aux citoyens, avec des pétitions de plus d'1 million de signatures de plusieurs pays, de lancer des initiatives. Et leur idée, c'est de lancer une initiative sur dire, on veut pas payer. Nous, les jeunes générations européennes, si vous ne changez pas tout, on va devoir émigrer parce qu'on n'a pas envie toute notre vie de payer les déficits que vous avez creusés par manque, justement, de cohérence, de conviction, de détermination dans la mise en place de ce qui me semble, moi, une évidence, qui était dans la logique des idées de Jean Monnet, qui était dans la logique du plan 92 marché unique de Jacques Delors, c'est-à-dire de bâtir une économie européenne solide et solidaire et forte, et non pas des économies divergentes et des opérations, je dirais, de briques et de brocs sans direction, sans vision.
Donc redonner du sens à la vision européenne, à la construction européenne, à travers les jeunes, votre ouvrage, et nous laisserons nos auditeurs découvrir avec passion, je n'en doute pas, les pistes que vous offrez pour cet avenir dans cette arène européenne où nombreux sont ceux qui ne trouvent plus leur place. Alors je termine en citant votre conclusion qui, je crois, donne exactement le ton de cette analyse historique et de ces propositions. Ce livre est aussi un appel aux jeunes d'Europe pour qu'ils se réveillent et poursuivent l'œuvre européenne avec leur aspiration et leur vision d'une société plus durable, plus équilibrée et plus intégrée. Ce livre est un appel à la génération de la refondation. Et vous êtes vous aussi en train de refonder une institution européenne. Nos vœux vous accompagnent. Et bravo pour avoir transmis dans votre dernière parution toutes vos convictions.
Merci.
Merci à vous, Henri.
Merci.